Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Avec un peu de retard, ce soir, on se retrouve pour notre libre antenne du samedi. Mais peu importe la quantité, ce qui compte, c'est la qualité, n'est-ce pas ? Je suis ravie de vous retrouver, de pouvoir échanger avec vous, de remettre chaque soir avec vous un peu d'humanité dans tout ce qui nous arrive. Toute l'équipe est prête à vous accueillir, sous la houlette de Guillaume à la réalisation. Cindy et Nicolas attendent vos appels au standard d'Europe 1. Vous faites le 39-21 et on se retrouve à l'antenne juste après. Et si vous avez envie de participer à nos conversations par SMS, vous tapez le 7-39-21, le mot nuit et puis votre message. Enfin, un autre chemin pour arriver jusqu'à nous, ce sont les mails. Pratique si vous souhaitez vous inscrire pour passer le soir de votre choix, par exemple. Vous nous écrivez à l'adresse suivante, libreantenne@europe1.fr. Vous nous dites de quoi vous voulez parler, surtout vous nous laissez bien votre téléphone et vous serez rappelé le soir choisi. Voilà, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin, alors commençons tout de suite.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et on commence avec l'appel de Juliette. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Sabine.
Soyez la bienvenue.
Oui.
Alors je crois que vous souhaitez nous parler d'une expérience un peu douloureuse.
Alors, pas vraiment douloureuse, mais disons...
Décevante.
Je dirais, non, je dirais plutôt hors du commun, parce que quand j'ai raconté ça à mes amis, à mon entourage... Tout le monde m'a dit, mais enfin, c'est extraordinaire ce qui t'arrive. Alors voilà, je vous explique.
Oui.
J'étais dans une salle d'attente chez le médecin et il y avait un monsieur qui ne parlait qu'anglais. Et comme la secrétaire ne parlait pas anglais, ben, je l'ai aidé à s'exprimer avec la secrétaire.
Mm-hmm.
Et puis, je suis partie à faire mon examen. Alors donc, en attendant que le médecin vienne me chercher, nous avons bavardé. Je voyais bien que ce monsieur n'était pas américain à ses chaussures. il avait plutôt un look british, donc je lui ai demandé s'il était anglais. Il m'a dit non, ma mère est anglaise, mon père est mexicain et je vis à Mexico. Bon, et puis je suis allée faire mon examen, je suis revenue, enfin bon, tous les papiers qu'il va faire, etc. Et mm-hmm. quand je suis repartie, ce monsieur qui n'était pas tout jeune, mais qui avait une bonne présentation, m'a attrapé le bras. Donc déjà, c'est un geste qu'on ne fait pas dans notre pays, en Europe, quoi. Donc, j'ai été un peu surprise.
C'est un peu intrusif, on va dire, oui.
Voilà, c'est ça. Et il m'a dit, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander votre numéro de téléphone ? Et comme finalement, ça ne me gênait pas dans la mesure où on peut aller boire un café avec quelqu'un de sympathique, je lui ai donné et j'ai oublié. Donc ça, c'était en début de semaine, il y a 3 semaines.
Ah, c'est récent comme histoire, comme aventure.
Ah oui, c'est récent. Ah oui, c'est récent. C'est encore bien en moi, quoi.
Ok.
Et puis le dimanche, j'étais en voiture avec une amie et là, mon portable sonne, un numéro que je ne connaissais pas. Alors, je dis, oh, je ne réponds pas, je ne sais pas qui c'est. Mon ami me dit, mais c'est dimanche, ça ne peut pas être une enquête, tu devrais répondre. Et donc, c'était le Mexicain qui demandait à me voir. Donc, je lui donne rendez-vous dans un bar à Paris, à midi, enfin en début d'après-midi. Et c'était fort sympathique. Bien sûr, mon anglais n'est pas très fluent, n'est-ce pas ? Donc, voilà.
Son français n'existe pas du tout, donc c'est toujours mieux que
rien. Ah non, pas du tout. Non, ouais. il parle anglais, espagnol et italien.
Mais il vous a dit ce qu'il faisait dans ce cabinet de médecin, ce qu'il faisait en France, globalement ?
Oui, il s'était fait mal aux pieds. Enfin, soi-disant, parce que maintenant je suis prudente sur ses dires, il avait eu un accident récent de moto, où la moto il était tombé sur le pied et il avait des ligaments déchirés, donc il boitait, il n'était pas très bien.
Mais bon. Il vous a dit qu'il était de passage pour des vacances ou pour un travail ?
Non,
pour quelle raison ?
Non, il a 73 ans, donc il est à la retraite et c'est là que l'histoire commence. Il m'a dit qu'il travaillait à la Citibank à Mexico et qu'il était en charge. C'est extrêmement important, ce que je dis pour la suite de l'histoire, qu'il était responsable de tout le secteur carte bleue pour l'Amérique latine.
Ok.
Voilà.
À 73 ans.
Non, mais il était à la retraite, là, mais c'était le métier qu'il faisait.
Il faisait avant, d'accord. Oui.
Voilà. Donc, on sent quelqu'un qui est bien habillé, qui est galant, qui a des usages, qui est poli, qui s'exprime bien, qui est intelligent. Bon, tout ça, ça me met en confiance quand même.
A priori, tout ça égale confiance, oui, effectivement.
Voilà. Puis en plus, qui est bien de sa personne, voilà. Et donc, je l'ai vu une première fois, je suis restée une heure avec lui. Et après, il a demandé à me revoir. Alors, je freinais un peu parce que je le trouvais un peu pressant, tout en restant très correct. Donc, une deuxième fois, on s'est retrouvés dans un bar très chic, à l'heure de l'apéritif. Et c'est ce que j'ai appris avec cette brève rencontre, c'est qu'on ne connaît pas du tout comment sont les hommes en Amérique latine, quels sont les usages, comment ils s'y prennent avec les femmes, quelles sont leurs habitudes de vie, on sait peu de choses si on n'a pas voyagé jusque là-bas. Mmh. Et donc il est arrivé dans un bar-restaurant très chic, il est arrivé en taxi, il boitait, toujours bien habillé, des écharpes, enfin bon, un look quoi. Mmh. Et il s'assoit, on commande à boire, et là, c'est trop drôle. C'est un petit détail mais qui peut vous expliquer plein de choses. Et là, il sort d'un sac à dos qu'il avait avec lui, un morceau de pain et un morceau de fromage. Alors moi, j'ai dit non, it's impossible, il y aurait une restaurant.
Oui, ça se fait pas vraiment, ça.
Ben non, pas du tout. Alors les gens autour de nous le regardaient, riaient, parce que c'était décalé, quoi.
Oui, et donc, pour le moins décalé, toujours, oui.
Pour le moins, oui. Alors je me suis dit, bon, ben, c'est bizarre, il pique-nique pas, il y a un hôtel, enfin bon. Et donc, au cours de cette deuxième rencontre, il me dit tout de suite qu'il habite trop loin de mon quartier, qu'il veut déménager et qu'il faut que je lui trouve un hôtel. Alors moi, j'habite en plein centre de Paris, donc je connais le quartier puisque j'habite là depuis 30 ans. Dans un premier temps, on va dans un hôtel, mais un vendredi soir, bien sûr, tout était complet. Je lui dis que je veux rentrer chez moi. Il me dit « Non, mais vous n'êtes pas bien, parce que si j'étais chez le docteur, c'est que je souffrais d'un terrible lumbago. Je vous dis tout. » Il appelle un taxi. Il demande au taxi de me déposer chez moi et il rentre. Tout à fait correct.
Bon, jusque-là, a priori,
jusque-là,
bon.
Tout va bien. Enfin, il était quand même un peu... il faisait des gestes qui ne se font pas, par exemple, surtout quand on ne connaît pas les gens. Il me prenait les mains par-dessus la table.
Il est très clairement, il attendait quelque chose, là, de ce que je comprends.
Oui. À un moment donné, je me suis sentie devenir toute rouge. À un moment donné, il s'est levé pour aller aux toilettes. Il est passé derrière moi. Il m'a embrassée dans le cou alors qu'on n'avait aucune intimité, rien.
Ah oui.
Vous voyez, mais ce n'était pas non plus choquant. C'était fait d'une bonne façon. Bon. Et puis, la troisième fois, enfin, pour vous faire un petit peu un résumé, il est resté 15 jours. J'ai déjeuné tous les jours avec lui. Il m'a toujours invitée dans des endroits sympa, dans des endroits chics, dans des endroits plus simples, dans des pizzerias. Enfin, c'était...
Mais est-ce que vous l'avez amené chez vous au moins une fois ?
Alors, voilà ce que j'ai fait. Il demandait pas, oui. Mais j'ai eu besoin de l'assentiment de mon entourage. Donc, je l'ai invité un soir à l'apéritif, mais je l'ai invité aussi un ami.
D'accord.
Je lui ai dit, ta mission, ce sera d'arriver avant lui et de repartir avec lui.
Bonne idée, ça me paraît sage, effectivement, oui.
Ah non, ça n'aurait pas pris le risque, hein, parce
ouais,
qu'il
vous avez
était
raison.
Quand même...
Ouais.
Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il a dit qu'il était très touché de cette invitation, parce que c'est faire pénétrer quelqu'un dans son intimité, quand même.
Bien sûr.
Et il avait réservé un restaurant après, mais ce n'était pas du tout prévu, ni pour mon ami, ni pour moi. Donc, on a décliné l'invitation, et dans l'ascenseur, il a demandé à mon ami mon âge. Bien sûr, mon ami n'a pas répondu. Bon, parce que je ne suis pas toute jeune. Et donc, je vous dis, on s'est vus tous les jours à midi. Un jour, j'avais rendez-vous chez l'ostéopathe. On était dans un restaurant où le service était très lent. Il m'a dit, non, mais il faut absolument que vous preniez un taxi. Il me donne 20 euros pour prendre mon taxi alors que je peux me payer un taxi. Vous voyez, bon, c'était rigolo. Bon. Et puis... C'est comme si, au fond de moi, j'attendais qu'il se passe quelque chose, parce que c'était trop beau pour être vrai, quoi. Mmh. Des filles à Paris, jeunes et jolies, on avait plein de rues. Pourquoi moi ? Vous voyez ? Un homme de 73 ans est plus attiré par quelqu'un de 60 ans que par une dame qui a quelques années de plus que lui.
Oui, pas forcément, mais enfin, c'est vrai qu'on peut, on peut être vigilant dans ces cas-là. On peut se poser la question, mais après, ça peut aussi être sincère. Hein. Ça dépend de beaucoup de choses.
Oui,
mais...
bien sûr.
Mais on peut se poser la question, vous avez raison. Oui,
oui, c'est vrai. Et puis, alors, je vais vous dire, j'étais quand même très, très bloquée par le fait que je souffrais terriblement du dos. Et je pense que, quelque part, c'est ça qui m'a un petit peu protégée.
Mais attendez juste un mot. Votre ami, qu'est-ce qu'il vous en a dit après ? Est-ce que j'imagine que vous avez débriefé ?
Ah ben bien sûr, alors mon ami m'a dit, oh ben dis donc, quelle rencontre exceptionnelle, mais ce type est brillant, il est intelligent, il m'en a fait plein de compliments, et en résumé, il m'a dit, le problème entre vous deux, c'est que toi, quand tu traverses la France, lui, il traverse le monde. Parce que c'est vrai qu'il nous disait qu'il avait tout connu, tout vu.
Mais donc il était envoûté aussi, quoi, visiblement.
Oui, exactement, exactement, et, voilà. Et donc, je lui ai trouvé finalement un hôtel dans mon quartier. Mais finalement, les hôtels sont souvent libres en semaine. Mais quand le vendredi arrivait, eh bien, il fallait qu'il s'en aille parce que c'était complet. Donc, c'est devenu compliqué. Donc, il a changé deux fois d'hôtel. Chaque fois, ça semblait difficile pour lui de faire sa valise, ses valises. Et un jour, le réceptionniste me dit « Écoutez, madame, est-ce que vous pouvez aller l'aider ? Parce que les clients vont arriver, les femmes de ménage doivent faire la chambre, et il n'est pas rapide. » Moi, je ne voulais pas monter, et puis je me suis dit « Bon, c'est en plein ménage, il y a les femmes de service, tout ça, je monte. » Donc, je suis montée, et là, j'ai vu quelque chose qui m'a extrêmement étonnée, parce que c'était que la deuxième nuit qu'il passait dans cet hôtel, je crois que vous auriez été là, vous auriez eu la même réaction. C'était organisé comme si c'était sa chambre. Il y avait des livres posés sur la table de nuit, rangés bien comme il faut. C'était juste qu'il n'y avait pas un vase avec des fleurs.
Ah, c'est curieux, ça, oui.
Ah oui, ça m'a étonnée. Bon, je me suis dit, ça doit être culturel. Il était un peu perdu, donc je ne l'ai pas aidé parce qu'il a voulu se débrouiller. Il est allé dans son autre hôtel. Mais comme c'était le premier hôtel qui avait téléphoné pour réserver, il avait une demi-heure, il n'était pas prêt, il m'a donné de l'argent, je suis allée à l'hôtel, j'ai payé, je l'ai attendu, tout s'est bien passé. Bon, il avait toujours de l'argent liquide, il payait tout en liquide. Bon, même une chambre d'hôtel à 200 euros la nuit.
Ça, par contre, c'est un peu étrange.
Alors, moi aussi, je croyais que c'était étrange. Et puis, j'ai une très bonne amie qui avait un ami mexicain qui est allé plusieurs fois au Mexique et en Argentine, et elle m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas, parce que les Mexicains aisés qui sont à Paris, ils ont tous du cash. Alors, je ne sais pas si c'est du blanchiment d'argent.
J'ai pas osé le dire, mais bon, oui, ça fait un peu cliché, mais enfin bon, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Bon, et puis, la semaine dernière, vendredi, on se retrouve dans une pizzeria où il avait pris l'habitude d'aller. Et il me dit, alors, détail important, il avait perdu son passeport.
Ah.
Et il devait rentrer pour un anniversaire à Mexico. Mais je lui dis, mais ça ne va pas être possible. C'est très, très compliqué en France.
Surtout en ce moment, les délais sont très, très longs. Ouais.
Voilà. Et donc, j'appelle un ami. Vous voyez, j'étais quand même méfiante parce que j'appelle un ami d'enfance qui a fini sa carrière commandant de police judiciaire. Et je lui dis, mais comment un Mexicain peut-il faire pour avoir un passeport rapidement ? Il me dit, c'est très simple, il suffit qu'il aille au consulat avec une déclaration de perte de son passeport et puis on lui donnera un papier qui lui permettra de partir. Sauf qu'il faut avoir son billet d'avion. On ne vous fournit pas votre passeport temporaire si vous ne faites pas la preuve que vous partez rapidement.
D'accord.
Voilà. Donc, ce qu'il me dit, ça correspondait. Et le soir, dans la petite pizzeria, il me dit, il faut que je parte. Je ne suis pas à l'aise avec ce téléphone. Est-ce que vous pouvez me prendre, tout ça en anglais, bien entendu, est-ce que vous pouvez me prendre mon billet d'avion ? Alors, je lui dis, Paris-Mexico, il me dit oui. Donc, je cherche un peu sur les sites, tout ça. Et je ne sais pas, en un quart d'heure, je trouve un billet Paris-Mexico avec une escale à Londres, 511 euros.
Bon. Sur son téléphone, donc hein.
Sur le mien.
Ah, sur le
Alors, je lui montre que c'était facile et qu'il n'y avait plus qu'à payer avec sa carte bleue. Et là, compte tenu du métier dont il a soi-disant fait, dont je vous ai parlé, il me dit, je n'ai pas de carte bleue. Boum.
Oui, bah oui, ça, c'est pour ça que je...
Voilà. Et il me dit, est-ce que vous pouvez payer pour moi ? Et moi, j'ai dit non. Mais alors, j'ai dit un non catégorique, hein, parce que ça m'a angoissée. Mais il me dit, mais j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Donc, il a sorti quelques billets. Il n'avait pas 500 euros. Il y avait peut-être 200, 300, mais il n'avait pas 500 euros sur la table. Donc, il s'est levé. Il est allé vers le bar et il m'a regardé d'un air mauvais et il m'a dit, alors, vous n'avez pas confiance en moi. Et ça, moi, j'ai été confrontée avec ma famille à la campagne un été, à un aventurier que j'appelle de l'Arche perdue, un gars qui est arrivé avec une énorme voiture, son ami. Ils ont passé 8 jours dans le petit hôtel du village. Et ils payaient à boire à tout le monde. Ils s'étaient fait ouvrir un compte et puis ils sont repartis au bout de 15 jours. Ils ont laissé une ardoise et après, on a vu dans les journaux qu'ils avaient été arrêtés pour grivellerie. Donc, ça m'a rappelé ça. Oui. Et comme je trouvais qu'il me faisait le coup de la confiance, alors...
Voilà, la confiance, elle se mérite, elle s'exige pas.
Hein. Voilà. Et donc, ça devenait lourd. J'étais fatiguée. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, je rentre. Mais j'avais peur parce que j'habite pas loin de cette pizzeria, mais il ne m'a pas suivi, rien. Et j'ai coupé mon portable, bon. Et puis, le lendemain matin, j'avais un message... Je suis vraiment désolée, je n'ai pas compris que vous aviez mal au dos, ce qui était vrai. Je suis vraiment désolée. Est-ce qu'on peut se voir demain? Alors, j'aurais pu ne plus donner signe de vie, mais quand même, je voulais savoir jusqu'où on allait aller, quoi. Mm-hmm. Donc, le samedi, je ne l'ai pas vu. Et le dimanche, il m'envoie un SMS en me disant « Est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui pour le déjeuner? Parce que je pense que je vais partir demain. » Ah bon, ben, je me dis, ben, alors les choses bougent. Et j'avais eu la présence d'esprit de dire aux gens de la pizzeria, qui me connaissent de vue parce que c'est mon quartier, faites attention, ce monsieur, je n'ai pas de relation privée avec lui, je le connais depuis 15 jours, on ne sait jamais à qui on a affaire, soyez prudents.
Oui, puis qu'il n'allait pas dire non plus que c'est vous qui allez payer ou des choses comme ça derrière. Il aurait pu laisser des ardoises. Voilà,
exactement. Ouais. Et donc le dimanche, je le rejoins. Et la surprise extraordinaire, la jeune femme me dit, il n'était pas là, je ne sais pas où il était, enfin il est arrivé un moment après, elle me dit, vous devinerez jamais où Charles a dormi. Alors je lui dis, ben non. Elle me dit, ben on a eu pitié de lui, il n'avait pas de chambre, il a dormi sur un banc dans la pizzeria. Là, j'étais sidérée. Enfin, il n'a pas demandé à venir chez moi, parce qu'il a dû quand même sentir que je vis seule, il a dû quand même sentir que je n'étais pas enthousiaste, il ne m'a rien demandé, il ne m'a pas dit non plus, alors que j'avais trouvé tous ces hôtels, qu'il n'y avait plus de chambre. Est-ce qu'il avait plus d'argent? J'en sais rien. Mais alors, ce qui était stupéfiant, c'est quand il est arrivé, on n'aurait absolument pas dit qu'il avait passé la nuit sur un banc inconfortable dans une pizzeria. Il était propre, il était impeccable, il était bien coiffé, voilà.
Et vous lui avez dit que vous saviez?
Non, je ne l'ai pas dit.
Non.
Non, j'ai pas osé. J'ai pas osé pour pas le mettre mal à l'aise, parce que il a toujours été extrêmement gentil avec moi.
Alors, qu'est-ce qu'il voulait à ce rendez-vous-là?
Alors, ben, il voulait me dire au revoir, mais avant qu'il arrive, la jeune femme de la pizzeria, qui est italienne, et qui était là chez son ami italien qui tient une pizzeria à Paris, elle me dit « Ah, mais moi, je vais payer son billet d'avion pour Rome. » Alors, je lui dis « Pour Rome ?» Mais je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je vous avais dit qu'il fallait être extrêmement prudente. Elle me dit, non, mais vous comprenez, il m'a fait de la peine, il faut absolument qu'il parte, il ne peut plus rester ici, donc excusez-moi, mais voilà, je vais payer son billet d'avion, c'était 68 euros, mais il me l'a remboursé. Bon. Donc, nous nous sommes quittés cordialement le dimanche dans l'après-midi. Et puis... J'ai appris que par le monsieur de la pizzeria qu'en réalité, il n'était pas parti tout seul, il était parti avec cette jeune femme. Moi, je me suis dit, bon, il la connaît un peu, mais il faut... Non, je ne crois pas. Non. Mais parce qu'elle était très jeune, enfin, elle avait 45 ans. Et je me suis dit, heureusement que je l'ai prévenu, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va sans doute aller habiter chez elle. Enfin, tout était possible, vous voyez, tout était possible. Et parce qu'on a fait aussi un autre, on a fait aussi un repas, j'ai fait aussi organiser un repas, un dîner un soir à Saint-Germain avec deux amis, un homme et une femme. mais deux amis que je connais très très bien. Et alors au départ, ils ont tous eu la même réaction que moi, parce que c'est quelqu'un qui présente bien, c'est quelqu'un qui est brillant, c'est quelqu'un qui est aimable. Donc les gens, comme vous l'avez dit, sont séduits. Mais il a payé en cash, il nous a invités, alors qu'on était prêts à payer notre part, vous voyez. Et tout le monde m'a dit, mais tu as une chance extraordinaire d'avoir rencontré ce garçon. J'ai dit, non mais attendez, c'est pas mon fiancé, je suis pas encore partie vivre avec lui à Mexico. Et donc là, j'en suis restée là toute la semaine, puisqu'ils sont partis lundi. Et tout à l'heure, je suis passée dans la pizzeria et j'ai vu le patron. Et je lui dis en riant, alors quoi de neuf? Est-ce que vous avez des nouvelles de Charles? Ah, écoutez, là, ça m'a scotché, ça m'a montré que finalement, mes doutes, c'est pour ça que je voulais vous parler, parce qu'on peut être la proie facile, surtout à partir d'un certain âge, de quelqu'un qui veut vous escroquer. Eh bien, il est parti à Rome avec cette jeune femme, elle l'a pas du tout accueilli chez lui, mais depuis qu'il est à Rome, il dort à l'aéroport.
Voilà. Comment est-ce qu'il le sait, lui ?
Eh ben parce que c'est son amie, là, la jeune femme qui est partie avec...
qui lui a dit. Avec,
voilà, qui lui a dit. Et alors, il nous a dit qu'il avait trois enfants, trois garçons. Il disait toujours qu'il attendait de l'argent de Western Union, de Western Union.
Alors, ce qui est vraiment... est-ce que vous avez Netflix ?
Oui. Je l'ai vu, l'arnaqueur, je l'ai vu.
L'arnaqueur de Tinder. C'est marrant parce que c'est... Oui. Il y a quand même beaucoup de similitudes dans le côté apparence... Mec très riche qui paye pour tout le monde en liquide et qui finit toujours par demander une avance qui lui permet de partir avec une autre femme à qui il va demander aussi une avance pour payer encore une troisième femme, etc. etc. Ça ressemble, il y a beaucoup de ressemblances.
Vous faites bien de me le rappeler parce que je me demande si inconsciemment, c'est pas ça qui m'a protégée, vous voyez. Inconsciemment parce que j'ai pas pensé tout de suite que ça pouvait être une arnaque.
Il se trouve que je viens de le voir. C'est pas un film, c'est un documentaire en réalité.
Oui, c'est très bien fait. Oui.
C'est très bien fait. Il y a beaucoup de similitudes. Hein. Ça, c'est vrai.
Oui. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que le monsieur de la pizzeria m'a dit, bon, elle lui avait pas payé son billet d'avion, mais il était tellement mal qu'à moi, il m'a emprunté 300 euros que je ne reverrai jamais.
Ah oui, d'accord. Donc, il a c'est ce qu'on appelle manger à tous les râteliers.
Voilà. Oui. C'est terrible, hein.
En même temps, je trouve que vous avez eu un sacré flair depuis le début dans cette histoire.
Ben, je crois que c'est instinctif parce que, alors, ce qui m'a protégée aussi, c'est quand il m'a demandé de payer avec ma carte bleue, le soir, j'ai appelé mes enfants. Et je leur en ai parlé. Mmh. Et comme je suis plus toute jeune, ça a déclenché une réaction vive de la part de mes enfants qui m'ont dit, mais enfin, mais maman, tu te rends pas compte à l'âge que tu as, mais ça peut être hyper dangereux, tu peux te faire dépouiller, et puis il a ton adresse. Enfin, elles avaient peur pour moi.
Vous avez été bien entourée, bien conseillée quand même, je pense.
Oui, j'ai eu de la chance.
Mais c'est vrai que c'est important de témoigner parce que je pense qu'il y a malheureusement tellement de femmes qui se font avoir par des mecs comme ça qui sont très doués finalement. Comme vous dites, ils sont intelligents, ils présentent bien, ils vous charment, ils ont de la classe. C'est facile, c'est facile de se laisser avoir finalement.
Tout à fait. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où je lui ai dit non pour la carte bleue, il n'a plus du tout été dans la séduction envers moi.
Évidemment.
Ça a été terminé.
Il a compris que ça ne marcherait pas. Donc,
voilà. Ouais. Voilà. Puis c'est avant des gens qui vivent comme ça, c'est affolant parce qu'il a quand même 73 ans. En plus, il a mal au pied. Alors, il nous a raconté une histoire invraisemblable pour son accident de pied, qu'il faisait de la moto avec un de ses fils à Miami.
Oui, enfin, à partir de là, vous savez tout ce qu'il raconte.
Voilà, exactement.
Ça n'a plus aucune valeur. Donc, voilà. En tout cas, bravo parce que vous êtes vraiment, vous êtes restée extrêmement, extrêmement lucide et prudente. Et ça, c'est un beau message à transmettre ce soir. Hein, vraiment.
Voilà, c'est pour ça que je voulais communiquer avec vous. Ouais, parce que ça n'arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver demain, n'importe qui. Voilà.
Et malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent.
Et, oui.
Et ils sont très doués et tout le monde peut se faire avoir. C'est pas réservé simplement. On avait tendance avant à penser que c'était un peu pour des femmes faibles. Pas du tout.
Oui.
On peut parfaitement être extrêmement lucide et intelligent et se faire complètement embobiner par ces gens-là. Donc effectivement, tout prudence, à fait. D'ailleurs, prudence.
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a dit, mais écoute, s'il n'était pas intelligent, il n'en serait pas à ce stade, quoi.
Elle a raison.
Parce que je pense qu'il fait ça à grande échelle, quoi.
Très probablement, oui.
Alors, bien entendu, il a soi-disant un de ses fils qui est directeur d'une banque suisse à New York. Enfin, vous voyez, c'est toujours loin.
Qui n'a pas de carte bleue non plus, bien sûr. Voilà. C'est fou, tous ces gens qui travaillent dans la banque et qui n'ont pas de carte bleue.
Ça, là, c'est quand même gros.
C'est un peu
énorme.
Peu énorme. Et mais des fois, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. C'est, ça, c'est, mais c'est, c'est vraiment ça dans le film L'Arnaqueur. Hein. C'est vrai, c'est ça qui montre. C'est que plus c'est énorme, plus on y croit. Parce qu'on se dit, c'est pas possible d'inventer un truc pareil. Quoi.
Bah, bien sûr. Est-ce que vous avez vu Inventing Anna?
Oui, j'ai adoré aussi.
Ah, enfin, bien,
là,
hein.
Là, ça va plus loin. Ça va plus loin.
Ça va plus loin. Oui, ça va plus loin.
C'est une pathologie chez elle, quand même. Hein.
Bon, alors voilà. Alors, je ne connaîtrai sans doute jamais le Mexique, mais c'est pas grave.
En tout cas, merci. Merci beaucoup d'avoir témoigné parce que je pense que vraiment, il faut alerter un maximum de femmes et vraiment, soyez prudentes avec les hommes que vous ne connaissez pas, quelle que soit la manière dont vous les avez rencontrés. Soyez prudents et prenez le temps de vous connaître surtout.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci de votre appel. Je vous embrasse.
Bonne continuation. Merci. Moi aussi. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et c'est Katia que j'accueille maintenant sur la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir, Katia.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue à vous, Katia.
Merci, oui. Donc, en fait, voilà, j'appelle parce que... j'aimerais bien partager un petit peu tout ce qui... Enfin, c'est pas tout ce qui me pèse, mais tout ce qui est présent, là.
Oui.
Et c'est un peu lourd parfois, et du coup, voilà, c'est...
Alors, vous avez raison. Vous savez ce qu'on dit, peine partagée, diminuée de moitié.
Voilà, c'est bien, oui.
Donc, j'en prends la moitié, allez-y.
Oui, c'est bien ce genre de... J'aime bien les petits dictons comme ça, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça.
Oui, ce sont des dictons.
Oui, du coup, en fait, je pourrais rembobiner, mais en fait, je suis arrivée à l'âge de 51 ans, mais... Voilà, depuis toute une histoire, toutes les histoires là, mon corps, il se trouve qu'il est quand même très handicapé. Et il est tout bizarre, il est tout fatigué, il est tout lourd. Et si ça continue au rythme où je suis, surtout... Comme notre petit dicton, sans le soutien des siens, on n'est rien. Je ne sais plus où c'est que j'avais entendu cette phrase, mais je l'aime bien. Et je n'ai pas de mien. En fait, tout s'est éparpillé, je suis complètement isolée.
Mmh.
Et du coup, ça commence à vraiment être lourd. Et à ce rythme-là, vu les deux dernières années, deux ans et demi là, que je viens de passer, ça va pas aller, en fait. Il faut que je mette un grand coup d'accélérateur. Et sûrement qu'en en parlant et en multipliant le fait d'en avoir parlé, d'avoir propagé ça, c'est un peu comme le pissenlit quand ça s'envole, là, les petits trucs, peut-être que à force, ça crée quelque chose.
Alors, j'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus. Est-ce que vous souffrez d'une pathologie particulière?
Oui, déjà, il y a ce handicap qui est là.
Quelle sorte de handicap?
Bon, il y a le vrai nom de l'hôpital et des médecins. Donc, le vrai nom, ça s'appelle sclérodermie systémique. Bon, ça fait un peu impressionnant comme ça.
Oui.
Donc, c'est un peu comme une cousine de la sclérose en plaques, en gros. Mais bon,
maladie neurologique dégénérative.
J'appelle ça un peu maladie auto-immune.
Auto-immune, d'accord.
Donc, en fait, on fabriquerait un collagène qui se retourne contre nous. Enfin, c'est un peu compliqué en médecine, on va expliquer tout ça, en fait.
Et ça vous a été diagnostiqué à quel âge?
En fait, ça m'a été diagnostiqué quand j'avais à peu près 22 ou 23 ans.
D'accord.
Parce que déjà, ça devait être, il devait y avoir un terrain. En fait, on doit tous porter des genres de gènes en nous. Et puis, peut-être, il y a des chocs émotionnels qui les déclenchent.
C'est tout à fait possible,
en fait, voilà. Je le dis un peu de façon bébête, mais
non,
on doit tous porter, avoir un terrain.
Exactement. Et ensuite, les facteurs déclenchants ou pas.
Oui, voilà. Mm. Puis, il y en a eu plein dans l'âge de mes 23 ans, 24 ans. Enfin, il y a eu des gros trucs, des gros pavés qui sont tombés, les gros non-dits, secrets de famille... trucs intrafamiliaux là, qui sortent jamais, qui doivent jamais être levés. Et puis là, ça s'est levé. Bien que je devais m'en douter depuis mon enfance et même depuis le ventre.
Ben comme souvent, les secrets de famille, il y a toujours une part de soi inconsciente qui les connaît en réalité.
Bien sûr, et oui.
C'est
puisque j'avais déjà fait des tas d'appels. J'avais tendu des tas de perches à ma famille. C'était très compliqué. Oh là là. On refait pipi au lit très tard, on attrape des rhinos, très tard. Du coup, on nous envoie en colonie sanitaire. En fait, après, on fait autre chose, on tend des perches sans arrêt pour l'enfant, c'est extrêmement fatigant. En fait.
Alors, sans rentrer dans les, détails, si vous ne le souhaitez pas, mais c'était dans quel genre de secret? Est-ce que c'était concernant un enfant, concernant une maladie?
En fait, c'était apprendre que j'avais... qu'il y avait déjà 5 qui étaient déjà là, et moi j'étais la 6e. Et en fait, j'ai un autre père biologique que tout le monde.
D'accord. Oui, effectivement.
Puis,
c'est
après, les parents, ils ne savaient pas que. Ils n'avaient pas vraiment lu Dolto et tout. Ils ne savaient pas qu'il faut parler au bébé.
Cette génération-là,
après,
effectivement.
J'ai essayé de faire un travail sur un peu le pardon, mais je pense que j'ai encore. J'ai encore des fagots qui ne m'appartiennent pas vraiment et que, en fait, des fois, je leur en veux.
Comment,
il faut bien trouver un responsable, en fait.
Comment l'avez-vous su, par hasard, ou c'était voulu?
Non, en fait, je commençais à faire... je commençais à glisser, à faire un peu des actes délictueux. En fait, ça avait tendu tellement de perches que j'en faisais des plus grandes, encore plus pour... Puis c'était un peu « dites-moi » ou « aimez-moi, coucou ». C'est un peu comme si on fait un drapeau comme ça. Et puis en fait, oui, en fait, vous me permettez d'exister, mais pas bien comme je croirais que... Il y a un truc qui cloche. Il y avait des chuchotages dans les cuisines quand je rentrais en jouant avec le ballon quand j'étais petite. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et puis, du coup, il y a des... Quand même, dans la fratrie, il y a des personnes qui ont dit « ça suffit, nous, on veut lever ça ».
Alors, qui savait, par exemple?
Comment?
Qui savait?
Les grandes sœurs.
Ah, les grandes sœurs étaient au courant?
Bien sûr, voilà. Du coup, en fait, il y avait comme une omerta.
Ah, oui.
La maman avait dit, en prenant les personnes sur les genoux, « il faudra jamais le dire ».
C'est curieux. Donc, qu'elle ait dit aux aînés.
Oui.
Parce que souvent, c'est un secret total, soit on en parle, mais le côté « on en parle aux grands » est pas...
Ça s'était un peu filtré, puisqu'elle avait quitté quand même le domicile conjugal.
Son...
Et eux, ils avaient quand même certains... Ils avaient 8 ans, 11 ans. Puis après, elle est revenue avec un gros ventre. Et pendant ce temps, le père, il avait bu de l'alcool, il était tout triste, il chantait des chansons tout tristes. Il n'y avait plus la maman pendant presque 6 ou 7 mois.
Mmh.
Puis après, elle est revenue, il y avait un bébé d'un seul coup. C'était moi, donc c'était un peu compliqué. Et sûrement que... Parce qu'en fait, la maman, c'était trop lourd. Elle devait faire des crises des fois, ça devait lui... Puis moi, j'étais le poids
de tout ça.
Toute sa culpabilité d'être partie.
Que c'est lourd de prendre sa place dans ces conditions-là.
C'est un peu lourd. Après, il y a pire. Hein, mais du coup, j'ai tout ce fagot-là.
Et donc, ce jour-là, on vous le dit. On vous le dit comment?
Petit à petit, on pousse. Puis un jour, moi, je dis... Bon, moi, je sens que j'en peux plus. Et puis, je dis, je vais venir. Et puis après, la maman s'assoit à la table et elle dit, voilà, il faut que je te parle. Et puis elle reste avec les yeux baissés, en se griffouillant les ongles. Et puis après, elle réussit à dire, voilà, c'était l'année un tel avant que tu naisses. Hein, et puis on était là-bas, dans tel endroit. Puis après, là-bas, il y avait un collègue de travail du papa. Et puis après, moi, je l'ai connu. Puis après, en fait, puis c'est mis du temps, au bout de plein de phrases. Puis moi, j'ai dit, c'est pas trop tôt.
Ça y est, elle
je me rappelle très bien avoir dit cette phrase. Et du coup, j'ai dit, c'est pas trop tôt. Puis en fait, moi, j'allais déjà parler chez un psy. Parce que je sentais que c'était compliqué, ma vie.
Mm-hmm.
J'avais déjà l'âge de 19 ans, tout ça, j'allais parler.
Et vous aviez envisagé ça? Ce scénario-là?
Je savais pas qu'est-ce qu'il y avait, en fait. Je savais bien que ça n'avait pas été adopté. C'était pas de ce domaine-là. Mais
il y avait un truc qui n'était pas dans la bonne case, quoi.
Oui, oui. Je sentais, c'est voilà.
D'accord.
De l'ordre de... Ouais. C'est comme si moi, je n'arrivais jamais à appartenir à leur clan. Je sentais ça tout le temps.
Mmh.
Que c'était un clan et que moi, j'étais l'élément... etc. intérieur, le canard boiteux.
Alors, qu'est-ce que ça a changé quand il y a eu cette révélation?
Eh bien, ça a fait un choc émotionnel. Du coup, il y a eu un peu cette maladie auto-immune. C'est quelques mois après, ça a fait plein de symptômes. Et puis, quand j'ai fait des examens un petit peu, ben, ils l'ont nommé comme ça. Mmh. Puis, scléro, ça veut dire durcir, et derme, la peau.
Oui, c'est une cousine de la sclérose en plaques, alors?
Oui, un petit peu, oui. Mmh. C'est-à-dire, si on malaxe son avant-bras, comme ça, on pourrait dire qu'on est un peu plus dur que notre peau. Mais c'est pas que ça, en fait. On fait aussi des calcifications. On digère pas tout. Là, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué.
Ce qui est curieux, c'est que, de manière générale, quand un secret de famille est révélé, ça libère plutôt des choses. Et chez vous, ça a fait l'inverse, ça a déclenché un tsunami. Alors que pourtant, on a l'impression que vous attendiez cette libération.
Oui, d'accord, mais c'est parce qu'un bout de travail a commencé, mais pas tout.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'après, j'aurais peut-être voulu trouver qui c'était, mais mon frère biologique, mais j'ai pas pu pousser jusque-là.
Elle vous l'a pas dit?
Il y a bien eu des noms avec des prénoms qui ont circulé, mais il faut peut-être faire des vraies recherches et c'est très coûteux. Il faut avoir un certain engagement. Il y avait un pays étranger en même temps. C'était pas tout simple. Et,
ah, oui, d'accord.
Et du coup, ça n'a pas vraiment abouti. C'est un peu un flop, mais bon, je suis pas obligée. Mais bon, j'aurais bien voulu avoir la petite photo de l'homme un jour, bon. Bon, après, qu'est-ce que ça m'aurait apporté de plus?
Ah, quelquefois, bon. On a besoin de s'identifier. Ça va
bien.
Oui.
Ben, ça, c'est sûr. C'est pour ça que je ne sais pas où je vais depuis toutes ces années. Gère.
Elle n'avait aucune photo, aucune adresse, aucun nom de famille qui aurait pu être un début de piste?
Ben non, surtout pas. Il ne fallait pas garder des traces de tout ça, sûrement. Pour
elle. Dans son esprit, elle n'avait pas au moins des noms concrets, une origine, une ville?
Oui, il y avait des choses. J'ai cherché, mais...
Ça n'a pas suffi.
Déjà, je ne maîtrisais pas la langue, puis j'étais trop toute seule. Mmh. Puis après, quand j'ai voulu trop soulever, on avait levé la première dalle, et puis quand j'ai voulu soulever encore plus, ben, les membres de la famille, étrangement, ils ont dit, bon, on te l'a dit, mais maintenant, laisse-nous tranquille avec ça.
Hein. Ah, ils ont fermé la porte, oui.
Voilà, donc du coup, ce n'était pas assez suffisant.
Donc c'était un peu débrouille-toi avec ça, maintenant.
Oui.
Bon.
Donc bon, j'ai gardé ça... Après, j'ai eu 25 ans, après, j'ai eu 27 ans, après, j'ai eu ma première grande fille. Mais je n'ai cessé de rechercher en l'homme, en la place d'un père, en la place de conjoint, l'homme. En fait, c'est une errance, c'est une carence.
C'est-à-dire, vous avez eu combien d'enfants avez-vous eu?
Une première grande fille, et après, 4 ans plus tard, un autre grand garçon.
Mais pas d'histoire d'amour, pas d'histoire de couple qui a duré, alors si je comprends bien.
Non, avec des personnes différentes.
D'accord. Donc vous avez quand même réussi à devenir maman, à reconstruire ce lien-là.
Oui, mais en trouvant des conjoints un peu bancals aussi, qui avaient des histoires compliquées aussi, qui avaient du mal à être père aussi.
Bah, comme vous dites, ça résonne avec votre histoire, forcément.
Ben oui.
L'image de l'homme et même de la confiance, parce qu'on vous a menti pendant tellement longtemps. Est-ce que vos filles sont au courant?
Oui.
Oui.
Ma grande fille, elle sait, et mon grand garçon, il sait.
Et votre garçon aussi, ils savent tous les deux leur histoire. Oui. C'est leur histoire aussi, finalement.
Disons que moi, je voulais pas leur mentir, mais ça s'est pas dit comme ça tout de suite, mais au fil de...
Bah heureusement que vous n'avez pas reproduit ce mensonge.
Voilà, moi j'aimais bien tout le temps dire quand ils étaient petits, quand il y avait des choses. J'aimais bien dire tout le temps, voilà.
C'est très important, heureusement que vous avez fait ça. Et cette maladie, elle a évolué comment? Alors, est-ce que c'est par crise? Est-ce que ça va mieux en ce moment?
Non, ça va pas du tout, c'est ça pire. En fait, les mains sont toutes recroquevillées, comme les serres d'un aigle.
Mm-hmm.
Et ça le fait aux pieds. Et après, l'été d'il y a un an et demi, là, l'été qui vient, ça fera 2 ans, ben, j'ai fait un cancer du sein. Après, je sais pas qu'est-ce que je vais faire d'autre, en fait. Comme j'ai pas supprimé des peurs et que mes d'autres quêtes. Et mon travail, il n'est pas fini, à mon avis. Il n'y a pas que le psychologique, mais ben, je me sens incomplète et puis en train de errer.
Mais vous êtes en train de faire ce travail, Katia, c'est ce que vous me dites, non?
Non, mais même, ça ne va jamais. Ça ne fera que être évolutif, de toute façon.
Alors, la maladie, peut-être, mais sur le plan psychologique, vous êtes suivie en ce moment?
Non, je ne suis pas suivie.
Ben pourquoi
jamais trouvé personne dans...
Vous me dites que j'ai commencé à travailler...
Oui, mais ça, c'est quand j'avais 19 ans. J'ai parlé chez le même monsieur. Puis, je me rappelle très bien, je l'avais appelé à l'avance. J'avais dit, on peut avancer le rendez-vous, j'ai des nouveaux éléments. Et j'étais arrivée en séance, j'étais toute contente. J'avais dit, ça y est, on me l'a dit. Et je me rappelle, j'avais dit ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Comment on peut faire? Qu'est-ce que je vais faire et tout? Et puis, il avait dit, ah, c'est très important. On vous a révélé un an. Et puis, j'avais parlé avec lui pendant encore un an de plus. Puis après, il est parti à la retraite. Après, j'étais restée un peu, un ou deux ans toute seule. J'en avais marre du verbal.
Oui, mais enfin, attendez, vous vous rendez compte à quel point c'est important? Vous me dites vous-même avoir compris l'importance de tout ce parcours sur l'état physique que vous avez.
Oui.
Vous avez plein d'éléments et vous n'en faites rien maintenant.
Ben oui, je suis trop toute seule. Il fallait plus de personnes.
Ah non, mais là, il faut absolument que vous ayez voir quelqu'un.
Quand j'ai voulu continuer, après, j'entendais tout le temps dans la famille, « Oh, tu nous agaces avec ça ».
Mais ce n'est pas avec eux qu'il faut continuer, c'est vous, avec
un thérapeute. Et là, j'ai développé beaucoup de violence, de contre...
Ben raison de plus, c'est vraiment avec un thérapeute qu'il faut travailler maintenant tout ça. Et vous libérez tout ça. Ah ben non, n'essayez pas, faites-le par pitié, Katia.
J'en trouve pas qu'il me plaise. Je m'ennuie quand je vais parler. Je fais que pleurer et ça me saoule. Et je suis en sueur et quand je ressors, j'ai les yeux qui crament. Il faut que je reprenne le métro dans cet état-là. En fait, c'est horrible.
Dans quelle ville êtes-vous?
À Toulouse.
Il y en a quand même des bons thérapeutes à Toulouse. Il faut vous laisser
le...
Alors moi, je n'ai pas le droit de le faire, évidemment, mais si éventuellement on a des auditeurs qui sont à côté de Toulouse et qui souhaitent vous transmettre des coordonnées, pourquoi pas, on vous les transmettra à ce moment-là.
Oui.
Mais ne lâchez pas l'affaire, parce que vraiment, avec tout ce que vous avez comme carte en main, il est temps de les poser et de comprendre des choses et de libérer des choses surtout.
Je n'ai plus les cartes, ça c'est sûr, ça fait longtemps.
Vous les avez développées vous-même ce soir, vous m'avez tout expliqué très bien.
Oui, mais ce n'était pas ça que... En fait, j'ai un morceau de truc à vous lire, si vous avez 10 secondes.
Non, parce qu'il va être 1h du matin, Katia. Je suis désolée, l'émission va se terminer.
D'accord.
Mais ce que j'aimerais
vraiment... Il y avait juste 5 lignes.
Bon, alors, allez-y très vite.
Oui. Ce qui est important chez un être humain, c'est ce qui le fait vibrer, ce qui l'intéresse, ce qui l'émeut. C'est ce qui ne se voit pas, qui le fait vivre et qui donne un sens à sa vie. C'est cela qui doit être dit aux enfants, à tous, comme le plus important dans leur personnalité.
Je comprends que ça vous parle, évidemment, ça résonne avec votre histoire.
Oh là là. Et là, je vibre plus du tout. J'ai tout perdu. Je perds mon corps, je perds tout, je perds ma
joie. Parce que vous vous êtes laissé tomber en cours de route, il faut vraiment vous occuper de vous, là, maintenant. Vous avez arrêté de vous occuper de vous et
tout
votre...
Tout seul, on ne peut pas.
Mais c'est pour ça qu'il vous faut un thérapeute, je suis bien d'accord avec vous.
Mais même, on ne peut pas sans voisinage approprié, sans sœur, on ne peut pas tout seul, on ne peut plus. On ne peut que laisser tomber petit à petit, s'effriter.
Je crois pas, Katia. Je pense qu'avec un bon thérapeute, vous allez déjà pouvoir vous reconstruire, vous, avant de reconstruire des liens avec les autres, justement. Ce ne sont pas aux autres de vous reconstruire, c'est à vous de vous reconstruire avec quelqu'un. Et après, quand vous serez il y a quelque chose qui s'est déstructuré chez vous au moment de...
Complètement, j'y crois plus du tout à cette société. Je suis dans un état catastrophique, mes pensées sont...
Mais c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que vous soyez
pas suivi. Il n'y a plus la nature, il n'y a plus rien en fait.
Non vraiment, Katia, promettez-moi de chercher, de trouver quelqu'un de bien qui va vous accompagner. Vous en avez vraiment besoin. Vous avez compris plein de choses déjà. C'est tellement important tout ce que vous avez dit ce soir, tout ce que vous avez compris. Si vous n'en faites rien, c'est vraiment du gâchis.
Eh oui,
c'est vraiment du gâchis. Je vais vous laisser. Ce que vous allez faire, c'est que vous ne raccrochez pas. Vous allez laisser à mes assistants votre mail, si vous le voulez bien.
D'accord.
Et si j'ai des contacts intéressants, je me permettrai de vous les transmettre.
D'accord.
Parce
oui.
que je pense à des gens que je connais du côté de Toulouse et qui sont très très bien.
D'accord.
On fait comme ça?
Oui, très bien.
Promettez-moi de prendre soin de vous, Katia.
Oui, merci beaucoup.
Ne raccrochez pas, je vous embrasse.
Merci.
Merci à vous. C'est terminé pour ce soir. C'est vrai qu'une heure, ça passe très très vite. Merci de votre patience, merci d'avoir été là quand même. Je vous retrouve demain soir avec plaisir pour de nouveaux échanges à partir de 23h cette fois. 23h, donc notez-le bien. D'ici là, si vous souhaitez nous contacter demain soir, vous pouvez laisser un mail à libreantenne@europe1.fr, libreantenne en un seul mot. Je vous quitte avec la phrase du jour et j'aimerais vous la dédier, Katia. Cessez d'être qui vous étiez et devenez enfin qui vous êtes. Je vous embrasse fort, passez une bonne nuit, à demain. Une heure du matin sur Europe 1, c'est le début des programmes de la nuit.